Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Votre émission Tourne-Page est présentée aujourd'hui par Catherine Fox avec Jean-François Roulant à la technique. Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui de France Deval s'appelle La dernière étreinte. Il a été publié dans une maison qui s'appelle Les liens qui libèrent, nom que je trouve par ailleurs très joli. Ce livre a été écrit par un professeur qui est éthologue et primatologue hollandais et qui vit maintenant aux États-Unis. Alors, un primatologue est quelqu'un qui étudie les grands singes, notamment les chimpanzés, les bonobos, les singes rhésus, les capucins. Et il les a étudiés tant aux Pays-Bas, au zoo d'Arnhem, dans un zoo au Kinshasa. Et en ce moment, il est à l'université d'Emory, à Atlanta. Alors, ne pensez surtout pas que je vais prendre parti sur des questions théologiques, de savoir si nous descendons d'un ancêtre commun avec les grands singes. Franz de Waal, d'ailleurs, ne cherche pas à répondre à cette question non plus. Ce qu'il essaie de faire, et ce que j'ai trouvé du plus grand intérêt, c'est de voir et de démontrer que le vivant, la plupart du temps, surtout chez les animaux, mais même chez les poissons et les oiseaux, ont des émotions et une conscience. Et c'est ça qui est quand même quelque chose de nouveau, dirais-je. De nouveau pour certains. Comment procède-t-il? C'est un scientifique. Et donc, ces animaux sont observés, filmés, subissent des tests. Quand je dis subissent des tests, ça n'est pas quelque chose d'épouvantable, on n'est pas du tout dans la vivisection. Et il décrit ces tests et les conclusions qu'il en tire. Le titre « La dernière étreinte » fait référence à la dernière rencontre entre un professeur de biologie, Jan van Hoof, de 80 ans, qui a été le directeur de thèse de Franz de Waal. Et ce professeur de biologie avait connu pendant une quarantaine d'années une chimpanzée qui, lors de cette dernière rencontre, avait plus de 59 ans. Et elle allait d'ailleurs décéder 15 jours plus tard. Elle était malade et mourante. Et il est rentré dans sa cage de nuit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cage de nuit? Alors, il y a les cages de jour ou les îles ou les endroits où les singes s'ébattent. Vivent pendant la journée, et le soir, ils rentrent et vont dans leur cage de nuit. Et cette cage de nuit, on a l'habitude, enfin les humains ne rentrent jamais dans cette cage, afin que les singes puissent se décontracter complètement et dormir rassurés, sans danger. Il faut savoir que les chimpanzés sont extrêmement forts et puissants. Ils peuvent très facilement casser le bras de quelqu'un, d'un adulte humain, fût-il très fort et adepte de musculation, ça n'est rien pour un chimpanzé. Donc il y avait un certain risque à rentrer dans cette cage. Il l'a fait parce qu'elle était faible et très atteinte. Il ne l'avait pas vue depuis plusieurs années. Il rentre dans la cage, il enfreint cette règle. Et cette scène a été filmée et montre l'émotion et l'expression de bonheur de Mama qui a souri en le voyant. Un grand sourire de singe, lèvres complètement écartées, on voyait les gencives et l'intérieur des lèvres qui est la façon maximale pour un singe de sourire. Et ce qui est très intéressant, elle a enlacé cet homme et a pianoté doucement la nuque comme font les chimpanzés quand ils cherchent à rassurer un petit. Elle avait donc senti l'hésitation de l'être humain à pénétrer sur son domaine et a voulu le rassurer et lui montrer combien elle était heureuse de le voir. Une autre scène est décrite par Franz De Waal à propos de cette même chimpanzé, Mama, qui ne voyait plus autant depuis qu'il avait déménagé et qu'il était parti aux États-Unis. Et il relate sa dernière rencontre à lui, quelques mois plus tôt, avant sa fin à elle, et elle l'a reconnue de loin. On était en plein jour, elle était sur l'île avec les autres singes, et elle le voit, elle arrive, douloureusement, et elle émet des petits cris et des grognements, qui sont les petits cris et grognements émis par les chimpanzés quand ils sont heureux. Et elle lui a tendu une main, comme ferait un être humain qui tendrait sa main à quelqu'un, un ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Les chimpanzés ont une excellente mémoire des visages et une mémoire qui remonte loin, tout comme beaucoup d'êtres humains. Mais pourquoi s'étonner, dit Franz Waal, que les animaux partagent avec nous ces capacités? Beaucoup de gestes que l'on croit uniquement humains sont partagés, en fait, par tous les primates et par beaucoup d'autres animaux. Je vais donc vous raconter les observations qui ont été faites par Franz De Waal et d'autres chercheurs qu'il nous répète dans son livre pour vous donner une idée de ce que contient ce livre. Un des tests est très intéressant qui parle de la notion d'injustice, qui est une notion que nous humains en ce moment, c'est une notion qui est, on va dire, non point à l'honneur, mais dont on parle beaucoup, on va dire, sur les ondes. Elle existe également chez les primates et entraîne des réactions qui ne peuvent que rappeler, j'allais dire, les nôtres ou celles de nos enfants. Un des tests connus est le suivant. Une cage en plexiglas qui est divisée au milieu par une autre paroi en plexiglas, et la paroi qui est du côté de l'observateur ou de l'humain, va-t-on dire, qui exécute, qui dirige le test, est également en plexiglas avec des ronds découpés qui permettent de passer la main. On donne une tâche à faire aux deux singes qui s'y trouvent. Et là, le test a été fait par des singes rhésus en l'occurrence. Et quand le test est correctement fait par les deux singes qui sont de part et d'autre, qui se voient mais qui ne se touchent pas, et correctement fait, ils reçoivent du concombre, parce qu'ils aiment bien le concombre. Tout va bien. Par contre, si on donne à l'un du concombre et à l'autre du raisin, les choses changent. Le raisin est un aliment plus prisé par les singes. Et celui qui n'a reçu que le concombre a deux réactions suivant les individus. Il y en a qui refusent de continuer à participer au test et jette les rondelles par les petits trous ronds de la paroi vers l'humain. D'autres, au contraire, le sentiment d'injustice est tellement important qu'ils commencent à jeter également des cailloux et à frapper le sol. Est-ce que cela ne vous rappelle pas les enfants qui réclament des bonbons au supermarché quand vous allez près des caisses, où les directeurs de marketing ont compris que c'était là où il fallait le mettre parce que les enfants pouvaient réclamer cela à leurs parents. Donc, quelle est donc la véritable différence entre l'humain et le singe? Je va-t-on dire? Alors on va dire, ah, c'est une question d'éducation, de self-control. Eh bien, les animaux aussi peuvent être éduqués et avoir le même self-control. Le test suivant, que j'ai trouvé assez amusant, met en parallèle un enfant et également un perroquet. Ils ne sont pas ensemble, ce sont des tests qui ont été faits séparément. On promet à des enfants qu'ils auront un deuxième bonbon ou gâteau s'ils évitent de manger le premier pendant un certain laps de temps. Et l'on constate que pour lutter contre la tentation de ne pas manger tout de suite le bonbon, l'enfant ferme les yeux ou se cache les yeux avec sa main. On a fait la même chose avec des grands singes et ce fameux perroquet qui s'appelait Griffin. Et lui aussi, eux aussi, ferment les yeux ou se cachent les yeux avec la main. Donc, là encore, il y a un parallélisme quand même très intéressant. Il y a également la notion d'altruisme qui a été constatée chez les rats. Deux rats sont mis dans une cage. L'un d'eux est fermé dans une cage beaucoup plus petite, en verre, et il ne se sent pas très à l'aise dans ce petit endroit. Le rat libre réagit, a-t-on remarqué la plupart du temps, et essaie de libérer le rat enfermé, car il est sensible à sa détresse. Le test se fait sans que les rats aient été dressés, je tiens à le souligner. Un deuxième test a été réalisé. Le rat libre doit choisir entre deux possibilités. Soit le contenu, comme nous l'avons dit, de la deuxième petite cage avec un rat enfermé, ou alors l'autre, au contraire, rempli de petites pépites de chocolat. Et les rats aiment beaucoup, paraît-il, je n'ai pas essayé, les pépites de chocolat. Alors, souvent, je ne dis pas à chaque fois, le rat commence par sauver son compagnon avant d'aller manger les petites pépites de chocolat. Au fond, les êtres humains ne font-ils pas la même chose? Par contre, si on donne un relaxant au rat libre, sa sensibilité est émoussée et il est indifférent à la souffrance de l'autre. Quelle est la déduction? Quelle est la conclusion? Est-ce que nous-mêmes, si nous sommes sous anesthésique, quelque chose qui calme nos douleurs, qui nous rend peut-être un peu trop optimistes, quel est notre comportement? Le rire existe également chez les animaux. Les chimpanzés et les rats aiment à être chatouillés par une main humaine, tout comme les enfants. Et un chercheur a constaté avec le rat domestique de son fils, qui était habitué à jouer avec lui, la même chose. Et dès qu'il entrait dans la pièce, dès que le chercheur entrait dans la pièce, le rat sautillait dans sa cage jusqu'à ce que l'humain arrive et le chatouille. Et les rats émettent des petits cris stridents, mais qui échappent à notre oui et qui sont comme les rires des êtres humains. Par contre, la réaction dépend de l'environnement et du contexte. Et on a constaté que s'il y avait un chat dans les environs, pas nécessairement dans la pièce, mais dont l'odeur pouvait être perçue par le rat, ou si les lumières étaient trop vives, le rat n'avait pas particulièrement envie d'être chatouillé et ça ne le faisait pas rire du tout. Par contre, les petits sauts de joie dont nous parlions tout à l'heure, chez les mammifères, existent chez les mammifères et ils sont compris entre des espèces différentes. Franz de Waal raconte qu'un petit rhinocéros en captivité jouera volontiers avec un chien avec une loutre, un poulain avec une chèvre. En pleine nature, on voit donc également des corbeaux et des loups se taquiner par jeu. Le jeu semble donc avoir son propre langage de petits sautillements et de joie. L'on pense souvent que les animaux n'ont pas d'expression faciale. Or, les singes froncent les sourcils quand ils sont en colère, tout comme l'être humain. Un étalon retrousse la lèvre supérieure quand il flaire une nouvelle odeur et une nouvelle odeur d'un autre étalon. Voilà, donc, que fait l'être humain? La même chose quand une odeur le dégoûte. Conclusion, il faut quand même dire que les animaux ont une certaine conscience, une conscience certaine, et que nous ne pouvons pas dire que nous sommes les seuls détenteurs. Ce livre a des photos très intéressantes que je vous recommande, elles sont commentées. Je pense que c'est un livre peut-être plutôt pour adultes que pour jeunes enfants, car il y a beaucoup de notions philosophiques qui y sont évoquées. Mais je ne peux que vous le recommander, car je dois dire que je l'ai trouvé extrêmement émouvant et instructif, et donnant une image différente de celle que nous pouvons avoir sur beaucoup d'animaux.